La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec des membres du collectif Golem, qui est un collectif qui s'était créé donc dans le cadre de la marche contre l'antisémitisme en novembre dernier, pour ne pas laisser l'extrême droite et le Front National venir tranquillement à cette marche et alors qu'il a un passé et même aussi un présent d'antisémitisme, mais voilà que c'est une question vraiment c'était une question vraiment très importante donc c'est un collectif qui s'est formé et moi j'étais assez ravi de cette formation, de ce collectif là-dessus. Après, il y a eu d'autres choses qui sont passées, mais peut-être les membres du collectif, ils vont nous dire pourquoi ils ont fait ça, dans quel but, parce qu'il y a plusieurs personnes, c'est assez pluriel. Ils vont nous dire un peu quels sont les tenants et aboutissants de ce collectif Golem. Alors, je vais vous laisser vous introduire et présenter le collectif.
Oui, donc en fait ce collectif il s'est principalement formé dans un contexte où il y a une augmentation majeure de l'antisémitisme en France, en tout cas majeure et dans les actes qu'on observe. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas vraiment eu d'appel à de marche contre l'antisémitisme jusqu'à ce que le pouvoir en place le fasse, et la gauche, une partie de la gauche appelée à ne pas défiler, l'extrême droite, donc le Rassemblement National qui est l'héritier du Front National, voulait défiler, et nous on se sentait complètement pris en étau entre cette gauche qui en a pas grand chose à faire de l'antisémitisme, en tout cas une partie, et cette extrême droite qui est fondamentalement antisémite et qui essaye de se refaire une santé sur notre dos, alors que clairement tout ce qu'elle veut c'est du mal de nous et depuis toujours. Et donc quelques membres actuels du collectif qui de divers horizons, principalement de la Ligue des droits de l'homme, du collectif juif et juif révolutionnaire et du parti des écologistes qui travaillent sur l'antisémitisme depuis un moment, ont essayé d'organiser une initiative pour arrêter, pour empêcher l'extrême droite de défiler tranquillement dans cette marche. Et il y a eu un élan de personnes, ils s'y attendaient pas, qui sont venues et ils ont réussi à bloquer un petit peu l'extrême droite et en tout cas à renverser le scénario médiatique en place en interpellant les médias sur place et en étant là présent et en essayant de reprendre la rue. Et suite à ça, en fait, c'est passé un énorme élan de juifs, juifs de gauche et aussi de personnes non juives qui se sentent concernées par l'antisémitisme, qui ont vu enfin un collectif vouloir s'attaquer à l'antisémitisme et ne pas accepter l'instrumentalisation de l'extrême droite, sans pour autant nier l'antisémitisme qui existe à gauche. Et donc petit à petit, on s'est retrouvé à être plusieurs dizaines, puis des centaines au départ sur un même groupe de discussion, et ensuite on s'est structuré petit à petit en collectif. Et donc c'est comme ça que Golem est né, et aujourd'hui on est un peu plus de 100 et on fait des actions assez régulièrement quand même. Est-ce que vous voulez dire comment vous êtes arrivé dans Golem ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas.
On peut laisser la... T'as très bien présenté le collectif, je pense qu'on peut laisser la discussion se prolonger.
Oui.
Bon, bah, d'accord. Du coup, vous êtes présenté pour les, au cas où si les auditeurs et les auditrices n'étaient pas au courant de votre présence. Donc, pour juste pour rappeler, on a fait plusieurs émissions sur ce thème et sur le thème du conflit israélo-palestinien et sur le thème de l'antisémitisme. On a vu un entretien avec Nona Mayer, qui est un peu spécialiste de l'antisémitisme, qui travaille à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On avait déjà un peu évoqué cette question parce que c'était à chaud juste après cet événement et du rôle de l'extrême droite par rapport à l'antisémitisme. Ça, on l'avait déjà bien évoqué, mais on n'avait pas évoqué les questions que vous mettez en avant aussi, qui sont aussi assez intéressantes, dont le fait que vous ne voulez pas participer à la mascarade de la lutte contre les antisémitismes avec des antisémites que sont le Rassemblement national, Reconquête et tous les autres gens d'extrême droite, mais vous voulez aussi lutter contre les autres formes de racisme. Mais si vous voulez lutter contre les autres formes de racisme, il y a aussi des gens. Bah, faut que lutte contre tous les racismes, mais aussi contre l'antisémitisme. Donc voilà, c'est un peu toutes ces thématiques-là que vous vouliez aborder, parce qu'il y avait des, voilà, il y avait des manques d'une part, et d'autre part, il y avait une instrumentalisation de l'extrême droite qu'il fallait dénoncer. Donc c'était un peu un double. C'est intéressant dans ce double vue de, voilà, par rapport à comment lutter contre le racisme et l'antisémitisme de façon. Dans un camp, on va dire, entre guillemets, de gauche pour l'émancipation, pour l'égalité, pour que ces questions-là soient posées vraiment selon ce que leur sens initial veut dire. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous pourrez dire là-dessus?
Bah, c'est tout à fait ça. Pour nous, il était absolument clair que l'extrême droite ne serait jamais l'ami des juifs et que, quelles que soient les positions que prennent les divers responsables des groupes d'extrême droite depuis une dizaine d'années, il est faux de dire que l'extrême droite sera jamais un rempart contre un quelconque antisémitisme, surtout en France. Et on ne peut pas faire comme si on n'était pas au lendemain d'un grand bouleversement, il s'est passé quelque chose hier. On est parti pour 3 semaines de lutte acharnée contre l'extrême droite qui va être définitivement extrêmement, enfin notre préoccupation première. Il se trouve aussi que ce qu'on a nous dans notre réflexion, c'est de se demander comment est-ce que l'extrême droite a pu, en quelques années, se refaire une virginité et se présenter comme un possible ami des Juifs de France. Et il se trouve qu'on s'est tous retrouvés comme Juifs de gauche avec la même sensation qui est que depuis le début de notre vie militante qui a pu commencer il y a 5, il y a 10, il y a 15 ans, on n'avait jamais connu des milieux militants de gauche où on n'ait pas été gravement confronté à des problèmes d'antisémitisme. Et il y a une sorte de fond culturel un petit peu problématique qui s'est insinué dans la doxa militante à gauche, dans la mesure où quand il y a eu des offensives antisémites de type Dieudonné, de type Soral, même avant il y a eu des grands problèmes en 2002 pendant les intifadas, mais la gauche n'a jamais été vraiment là pour insister sur le pas d'amalgame et pour insister sur le fait que chaque acte antisémite était condamnable. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup de manquements là-dessus. Quand ça a été la période Dieudonné, par exemple, on a beaucoup entendu à gauche des réflexions sur oui, mais est-ce qu'il est normal de censurer quelqu'un qui appelle, je ne sais pas, une personnalité juive, par exemple, à mourir gazé dans un camp en Pologne? Je pense que la gauche n'aurait pas dû se poser ce genre de questions et qu'il aurait fallu condamner immédiatement et que c'est petit à petit le fait que la gauche ne se saisisse pas de tout ça, que certaines personnes véritablement antisémites se servent de la cause palestinienne pour taper simplement sur les juifs, simplement en tapant sur des personnalités juives, en les requalifiant de sionistes alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais émis la moindre idée sur le conflit israélo-palestinien. Tout ça a fait qu'il y a eu un fond un petit peu insidieux et qui aujourd'hui bah, brouille les lignes à gauche. Et nous, tout ce qu'on veut faire à gauche, c'est un petit peu pointer du doigt les manquements pour qu'on sache ce qu'il faut penser et ce qu'il n'est pas légitime de dire. Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre du dog whistle que peuvent avoir Guiraud, Hassan, tout ça, sur le CRIF qui contrôle le monde, le CRIF qui impose sa politique à Macron, ce genre de choses. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Et pour autant, on veut aussi avoir un grand discours de soutien aux Palestiniens, de cesser le feu, de libération des otages, et on veut pouvoir faire entendre une voix radicalement de gauche qui, pour autant, ne se compromette pas avec de l'antisémitisme.
Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, ça a aussi permis une division des luttes contre l'antiracisme. Personnellement, je pense que ça a permis une division des luttes antiracistes et que c'est cette division-là qui est utilisée par l'extrême droite pour instrumentaliser l'antisémitisme et se revendiquer comme défenseuse des juifs. Mais quel est son but derrière? C'est souvent d'aller taper sur des populations qui vivent aussi du racisme, que ce soit les musulmans ou les arabes, et ou de manière générale les quartiers populaires, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est fondamentalement un contresens que l'extrême droite puisse le faire d'un côté et que la gauche ne dise pas, mais en fait, l'antiracisme, c'est contre tous les racismes, et tous les racismes, ça inclut l'antisémitisme, comme ça inclut l'islamophobie, comme ça inclut le racisme anti-arabe, comme ça inclut l'antitiganisme et le racisme contre les gens du voyage, et le racisme anti-asiatique, la négrophobie, etc. Et que, en fait, et c'est une trahison de l'héritage antiraciste en France aussi, parce que, en fait, ça met en... l'antiracisme en France, il s'est fondé sur deux choses. D'une partie, les luttes anti-coloniales typiquement en Algérie, de l'autre partie, la lutte contre l'antisémitisme avec notamment l'affaire Dreyfus. Et en fait, ces deux bases, elles se sont largement alliées pendant des dizaines d'années, en tout cas globalement, et c'est une destruction de tout ça qui s'est opérée depuis les années 90, et c'est ça qui, pour moi, permet en grande partie à la fois que la gauche se leurre dans des racismes en fonction des différents partis de gauche, c'est pas forcément les mêmes, et que l'extrême droite reprenne la lutte contre l'antisémitisme, se revendique de la lutte contre l'antisémitisme, alors même que c'est que le RN qui descend du FN, le DFN a été un parti fondé par un SS quand même, puisse le faire.
Oui, et par un promoteur aussi du négationnisme bien connu, qui est Monsieur Duprat, fondateur du négationnisme en France à la suite de Maurice Bardèche. Enfin bon, il n'y en a pas. Voilà, on sait ce que c'est au niveau de l'antisémitisme. Juste pour nos auditeurs et nos auditrices, ils ne seraient peut-être pas au courant, parce que c'est des choses qui sont évoquées. Il y a des petites. Concurrence politique entre des lignes politiques au sein de la gauche, que tout le monde n'est peut-être pas au courant, on vient de les évoquer, on n'a pas le temps de les évoquer. De toute façon, on devrait faire une émission l'année prochaine là-dessus, donc ça sera le moment de les évoquer, mais là peut-être nos auditeurs, l'autrice, ils ne sont peut-être pas au courant de quoi on parle, mais peut-être que le fond, ils ont compris de quoi c'était par rapport au fond. Et j'en profite pour faire cette petite mise au point pour dire qu'on va faire une petite pause musicale, mais après on va en venir à quelles sont les choses que le collectif Golem a fait. Il y a eu un rendez-vous intéressant qui a eu lieu le 23 mai. Vous pouvez peut-être le raconter, nos auditeurs, nos auditrices, après la pause musicale.
First time that I
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter Yvette Mitchell et le titre du morceau, c'est Every Night, Every Day. On a mis un morceau de R&B pour être un peu. La période, elle est un peu grave, mais on a dit qu'il y a un peu de musique entraînante, joyeuse. Nous ferait tenir le moral. Précise qu'on enregistre l'émission, on est le lendemain des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Donc, ça passera plus tard, mais voilà, on enregistre juste à chaud après le lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale et du score alarmement fort de l'extrême droite à ces élections. Mais du coup, on va revenir avec les gens du collectif Golem. Et je sais qu'il y a eu un événement organisé avec d'autres collectifs. Hein. Il y a le réseau contre l'antisémitisme et tous les racismes, hein, le RAAR, et aussi le groupe Juifs et Juifs Révolutionnaires. Il y avait organisé un événement à la Bourse du Travail par rapport à la thématique que vous vouliez porter. Donc peut-être vous pourrez présenter à nos auditeurs et auditrices ce que vous avez voulu mettre en avant et est-ce qu'il y a eu des rencontres, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était intéressant, qu'est-ce que vous en avez retenu, un peu tout ça quoi.
Ça fait suite à ce que Noé et Ner viennent d'aborder. Donc le 23 mai dernier, à la Bourse du Travail, on était plus de 500 réunis à l'initiative des trois collectifs que vous venez de citer, donc Golem, pour aborder la question qui était « Qui a peur de la lutte contre l'antisémitisme ?» et pour une lutte à gauche qui soit réellement contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Le mot réellement, évidemment, il arrive parce qu'on part du constat que malheureusement, il y a dans bien des cas une absence de prise en compte de cette thématique. Et comme le soulignait Noé Henner avant moi, on a pu constater que bien souvent, la gauche ou certains représentants à gauche ou certains membres de partis politiques étaient beaucoup plus occupés à condamner l'instrumentalisation faite de l'antisémitisme que la question de l'antisémitisme elle-même, ce qui, à mon sens, synthétise vraiment le cœur de une des raisons en fait qui ont fait que Golem s'est créé et que ça a rassemblé soudainement autant de gens. C'est beaucoup de gens qui se sentent de gauche, qui ont envie de faire partie du mouvement social et d'une quête d'amélioration, on va dire, de la politique française depuis la gauche, et qui souvent se sentent pas forcément à l'aise de le faire parce que l'antisémitisme peut exister de façon plus ou moins latente, plus ou moins insidieuse dans différents mouvements politiques. Ou dans des manifestations, ou par exemple encore hier soir, puisque vous mentionnez qu'on est le 10 juin et que c'est une journée un peu particulière, l'Assemblée nationale vient d'être dissolue. Place de la République à Paris hier soir, un rassemblement s'est créé spontanément pour appeler à faire barrage au RN et un des mots d'ordre a été... que Glucksmann était complice d'Israël, Israël assassin, Glucksmann complice. Et dans ces moments-là, quand on regarde, qu'on soit d'accord ou pas politiquement avec Raphaël Glucksmann, quand on regarde ses prises de position sur le sujet, il a été depuis longtemps et un des premiers à condamner la politique israélienne. Et juste avant les élections, son visage était tagué dans la rue de croix gammée. En fait, on se pose sincèrement la question de qu'est-ce qui est réellement condamné chez Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est sa politique ou est-ce que c'est son nom? Et en fait, bien souvent, il y a quelque chose qui se crée dans une forme, enfin, qui est un peu très au complotisme, dans quelque chose qui se voudrait être un peu subversif, un peu révolutionnaire, un peu contre-système, qui part à gauche dans plein de mouvements et qui peut être louable et qui va un peu taquiner les sujets complotistes, et le complotisme appelle souvent les thèses antisémites, ou les rejoint bien souvent, puisque il s'agirait de découvrir qui est réellement derrière un grand complot, qui tient réellement les ficelles de nos existences, de la finance, de la politique, et qui a fait date dans bien des cas. Très souvent, on peut retrouver un moment ou un autre un juif derrière la réponse à cette question. Donc, c'était ce qu'on souhaitait aborder à la Bourse du Travail le 23 mai, en s'interrogeant réellement sur quoi faire ensemble pour ne pas se faire déposséder de lutte à gauche, juste parce que les mouvements de gauche n'auraient pas bien saisi l'enjeu qu'il y a à ne laisser exister en leur sein aucune forme de racisme et d'intolérance, quelle qu'elle soit. L'antisémitisme compris.
Oui, et aussi le confusionnisme et les formes de complotisme, comme vous l'avez évoqué, ce qui est, qu'on a pu le voir, ce n'était pas que circonscrite à l'extrême droite ou à Dieudonné, mais que ça avait aussi infusé dans la société. On a pu le voir pendant la pandémie de Covid avec les fameuses pancartes qui accusaient les juifs, et puis, voilà, ouais. etc. Donc, c'est, voilà. Tout à fait, et là, je fais bien de le souligner. Et donc, par rapport à ce que vous dites, là, j'avais lu un blog intéressant d'un collectif avec qui vous avez fait cette rencontre, là, les Juifs ou les Juifs révolutionnaires. Eux, ils parlaient même, c'était sur cette instrumentalisation, ils parlaient de l'instrumentalisation, Donc, ils avaient retourné le stigmate. C'était moi, j'avais trouvé ça assez drôle, la façon de retourner le stigmate, un peu comme disait Abdelmalek Sayad par rapport aux populations maghrébines immigrées. Et en fait, c'était intéressant ce qu'il disait. Il disait que oui, il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme par l'extrême droite, par les pouvoirs en place, etc., qui se traduit par le déni des crimes de masse que peut faire Israël à Gaza. Oui, il y a une certaine criminalisation de Palestiniens, avec les Palestiniens qui, des fois, en ne faisant pas le bon tri de livrer par rapport aux propos antisémites. Mais il y a aussi l'instrumentalisation de cette instrumentalisation qui est faite par certains qui se disent qui, dans un déni d'antisémitisme, jouent sur ça en disant que dénoncer l'antisémitisme, c'est instrumentalisé par le pouvoir. Et donc voilà, en fait, c'est un peu une forme de déni, quoi, quelque part. Et voilà, il y a des gens qui déclarent que récemment, qui ont déclaré que l'antisémitisme était résiduel en France. Quoi. Je ne vais pas dire qui c'est pour ne pas fâcher, mais bon, voilà. Mais
ça, c'est vraiment problématique pour nous dans ce contexte-là. Voilà, Là, on n'est plus sur une erreur à la marge ou sur une phrase, ou sur une pensée résiduelle, si je peux me permettre la blague. Il y a un acharnement à affirmer ce type de pensée. Qui est super problématique parce que je pense sincèrement que ça libère l'antisémitisme.
Et puis, il y a quelque chose de très confortable de la part de Mélenchon quand il a dit ça, c'est que pendant très longtemps, quand les Juifs avaient potentiellement besoin qu'on parle et qu'on dénonce un antisémitisme qui s'exprimait de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, et des actes antisémites en vrai qui grandissaient, on avait besoin d'une parole forte à gauche et elle n'est jamais venue. Et donc, pendant longtemps, Mélenchon n'a rien dit. Et aujourd'hui, il rafle justement, comme vous l'avez si bien dit, cette récupération de la condamnation. Et entre les deux, il n'y a jamais eu de la condamnation du fait en lui-même. Et en jouant avec la récupération de cette condamnation, lui-même, il réactive un autre cliché qui va être le séparatisme des Juifs, une supposition de double allégeance. Alors, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, ça va être une accointance avec les intérêts israéliens, mais pas uniquement, simplement une idée d'anti-France. Quand il est parti en octobre-novembre faire un grand tour de conférence autour de la France, et qui disait qu'il comprenait pas parce que les Juifs, avant, ils étaient majoritairement à gauche, et puis qu'ils avaient fait sécession depuis quelque temps, il oublie de dire qu'il y en a certains, ce qui est vrai, hélas, on déplore qu'il y a certains juifs, effectivement, qui se tournent vers le RN et on est persuadé qu'ils se trompent.
Mais, comme dans toute la France, en fait.
Tout à fait. Ça ne concerne pas que la population juive. Mais il oublie de dire que lui-même n'a jamais parlé quand les juifs avaient besoin de lui. et qu'il n'a pas fait son taf d'homme de gauche, quand il accuse ensuite M. Gage d'être retenu à la laisse du piqué de ses affiliations, alors que Gage, typiquement, c'est un laïcard universaliste qui a jamais, jamais évoqué son judaïsme, qui a juste un nom juif, et il active aussi cette idée de les juifs sont pas prêts à la France, quoi.
Moi, je voudrais juste revenir aussi sur cette, à la fois sur l'instrumentalisation des instrumentalisations et cette histoire d'antisémitisme résiduel, parce que en fait, il y a deux choses pour moi, c'est que la première chose, c'est vraiment dans l'instrumentalisation, comme dans l'instrumentalisation de l'instrumentalisation, comme l'ont théorisé JJR, il y a cette idée que les antisémites, au final, c'est toujours les autres. C'est-à-dire que, en fait, comme l'antisémitisme est devenu un tabou dans la société française après la Shoah et dans la société européenne, on ne se revendique plus vraiment antisémite. Et par contre, on accuse d'antisémitisme les autres pour les dévaloriser socialement, sans jamais se poser la question de soutenir face aux vrais actes, comme face aux actes antisémites, de soutenir les juifs comme le pointait Noé. Et donc en fait, il y a un peu ce truc de la gauche renvoie la balle, c'est l'extrême droite souvent, c'est l'extrême droite qui instrumentalise, ou alors non mais de toute façon, il n'y a que l'extrême droite qui est antisémite. Et l'extrême droite renvoie la balle, c'est les gauches, c'est la gauche ou je sais pas trop quoi, qui est antisémite, et au final l'antisémitisme n'est jamais abordé. Mais il y a cette espèce de ping-pong là. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, j'ai presque l'impression qu'avec cette histoire d'antisémitisme résiduel, on a même franchi un nouveau cap, puisque, en fait, maintenant, même l'antisémitisme pour la gauche, en tout cas pour cette gauche-là, ou des personnes qui se revendiquent de cette gauche-là, qui sont quand même assez connues, bah, en fait, même l'antisémitisme d'extrême droite n'est plus vu comme antisémitisme. Et c'est, pour moi, ça me semble absolument aberrant de pouvoir dire, en France, l'antisémitisme est résiduel, au-delà même de l'antisémitisme qu'il y a dans son propre parti ou dans la gauche, quand on a 30%, 40%, on ne sait pas, 30% des Français qui, en tout cas des Français qui votent pour un parti fondé par des antisémites et qui est toujours très très proche d'antisémites et qui est toujours d'ailleurs antisémite profondément, qui même plus récemment... il y a eu Malika Sorel qui était la première ou la deuxième sur la liste des européennes, qui a parlé des cosmopolites qui menaceraient la France. Et en fait, on sait très bien que l'argument cosmopolite, c'est aussi un dog whistle. Donc un dog whistle, pour les gens qui ne savent pas, c'est quand on dit un mot qui peut être... On peut faire comme si c'est pas... on dit un mot qui signale un discours raciste, homophobe, etc., mais de manière un peu cachée, comme ça on peut faire comme si ça ne l'était pas. Et donc en fait, quand on dit les cosmopolites, on peut dire non, mais c'est juste les gens qui s'intéressent au multiculturalisme, alors que très souvent, c'est, et depuis très longtemps, utilisé pour parler des juifs. Pas que, mais principalement. Et donc, donc en fait, l'extrême droite est toujours antisémite. Au-delà, la gauche est porte de l'antisémitisme de manière assez forte aujourd'hui aussi. Et cette idée de pouvoir dire que l'antisémitisme est résiduel dans ce cadre-là, et en plus avec les plus forts taux de violence antisémite depuis des décennies, et je ne sais même pas depuis quand, c'est quand même assez symptomatique de ce déni profond et de cet antisémitisme, c'est toujours les autres aussi. Voilà.
Et bah on va faire la pause musicale parce qu'on sent que les viscères ont été attaqués. On va laisser un peu le temps de souffler parce que on voit que c'est qu'il y a un peu d'émotion, mais c'est normal avec des choses pareilles. La pause musicale.
Ass blown away, who gone away, I ain't never let you tell anyway, Missy got something to say, I ride down the block in an Escalade, bling bling all in your face, I think you might need to put on your shades, I know you feel metal, you're hating on me but you hear me though, 20 inch rims sitting crazy low, I'm a crazy hoe, I'ma keep the party live, flip it tonight, keep it here
hands in the sky, waving around like you're crazy high. Me. If I get your head, you'll never leave. Stop sweating me. Flip it on the black hand side. Look at here, boy, don't you even try. Make me dislocate your spine. My rings make shine like turpentine. What you coming around here not for? Baby, hell no, you just want my dough. Get your black ass on the floor. Food touch me, that's a no, no. Mr. DJ, won't you play that song? Tell them freaks shake they nasty thongs. Hey, boys, won't you sing along? Cause we gon' rock the party to the early morn. But you don't scare me. Originality is leery. My own style and I ain't sharing. Back up, back up. These are now, hey y'all. Let's turn it up and turn the club down.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter Blundetto et le titre du morceau c'était Les Cachottes. Et on continue notre entretien avec des membres donc, du collectif Golem. Mais aussi, maintenant on en fait un peu un petit tableau de la situation du pourquoi. Du pourquoi et peut-être aussi un peu du comment. Donc apparemment, il y avait près de 450 ou près de 500 personnes qui étaient à votre réunion, c'est pas mal, hein, c'est déjà c'est un bon début. Mais je sais que vous y avez raconté plusieurs choses, mais aussi par rapport aussi à des histoires de vécu, comment vous ça vous a concerné, parce que depuis le 7 octobre, il y a eu des assignations, qui sont autant que quand on. Quand on est juif, il y a des assignations à répondre d'Israël, et par les personnes qui sont arabo-musulmanes, il y aura des assignations à répondre des actes du Hamas et tout. Enfin, c'est un peu des doubles assignations identitaires racialisantes qui sont piégeuses et dont on veut se débarrasser. Voilà, donc c'est. Voilà, si vous pouvez. D'ailleurs, à ce propos, je signale un très bon livre de Arié Halimi qui est dans votre collectif, qui s'appelle « Le Juif français de gauche dans le désordre », aux éditions de la Découverte. Il parle de ça, c'est très intéressant. Et voilà, je fais la pub pour les auditeurs et les auditrices là-dessus, c'est vraiment très bien. Et donc, je ne sais pas si vous voulez un peu parler de cela. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques, on ne va pas aborder toutes les polémiques qui ont eu lieu donc, par rapport à... aux mobilisations contre les crimes de masse commis par l'armée israélienne à Gaza. Donc là, vraiment, les dizaines de milliers de morts. C'est vraiment c'est très horrible. Donc on est d'abord pour condamner ça. Pour leur reconnaissance, parce qu'il faut un État palestinien, il faut arrêter la colonisation de la Cisjordanie, toutes ces choses-là. Il y a eu un accord par rapport à ça, mais aussi, donc je ne sais pas si c'est par rapport à vous, que l'existence de l'État d'Israël comme État juif, qui est un État refuge à la base, on a déjà évoqué les émissions précédentes par rapport à ça, qu'il faut l'existence d'Israël, État juif refuge, ne doit pas être remise en cause. Et par rapport à toutes ces choses-là, toutes les mobilisations, les usages du terme sioniste, alors, un confusionnisme assez évident, sionisme, antisionisme, etc., etc. En tant que personne juive et de gauche, a dû vous toucher, donc peut-être des choses à dire par rapport à ça, comment vous avez été pris dans ces polémiques, ces assignations et des difficultés à porter vos paroles en tant que juif de gauche par rapport à ces questions-là.
Je peux commencer. J'imagine qu'on a tous beaucoup de choses à dire qui tiendraient dans peut-être beaucoup plus de temps qu'il nous en reste, mais comme plein de gens, moi j'ai été très touchée par ce qui s'est passé depuis le 7 octobre à bien des titres, évidemment par ce qui s'est passé là-bas. D'abord sur quoi je ne vais pas prendre le temps de revenir maintenant parce que ce serait un peu long, mais bon, bien évidemment, le collectif Golem a tout de suite pris position pour condamner la politique du gouvernement de Netanyahou sur ce qui se passait actuellement. Mais ce que j'ai trouvé très douloureux à titre personnel en étant française et en vivant en France, c'est de constater les répercussions ici dans la façon dont c'était abordé en France par des politiques, mais également des personnes en dehors du champ politique. Par exemple, les féministes qui m'ont éduquée, auprès de qui je me suis formée en écoutant leurs émissions, en les lisant et qui m'ont appris à réfléchir sur les impensés liés au traitement de minorités, donc là, de minorités de genre, mais ça m'a appris à me questionner sur les biais racistes qui existent dans notre société et qui existent en chacun de nous. Et en fait, j'ai été très étonnée de découvrir dans des conversations avec des proches l'impensé absolu qu'il y avait sur les biais antisémites qui existent dans la population française. Chez plein de gens à gauche, se pensant complètement immunisés, puisqu'étant de gauche, et ayant une espèce de pensée magique à ce sujet-là, se disant « comme je suis de gauche, je suis quelqu'un d'antiraciste, et comme je suis antiraciste, je ne peux pas être raciste ». Et avec une boucle qui se bouclait très rapidement, empêchant complètement d'aborder le fait que malgré ce que l'on pense chacun de soi-même, on peut malgré nous véhiculer des pensées, des actes, des paroles qui sont porteuses de racisme ou d'antisémitisme à notre insu, et que c'est aussi à chacun de nous de veiller à ça. Et que ce soit dans des personnalités publiques ou dans la classe politique, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gros angle mort à ce sujet-là et qui était très douloureux dans le même temps que l'on se sent soi-même, comme vous le rappeliez, assigné un peu à résidence identitaire, où on doit soudainement répondre d'une politique pour laquelle on n'a jamais voté, etc.
Du point de vue de cette assignation, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, si je dois parler de ma découverte du mot sionisme, je me suis fait traiter de sioniste bien avant de connaître l'existence de l'État d'Israël. Enfin, il s'agissait de populations qui, effectivement, mangeaient du contenu qui pouvait être lui antisémite, qui faisaient des amalgames entre juifs et sionistes. Et du coup, je me suis vraiment fait traiter de sale sioniste sans avoir, mais à rien dit, simplement parce que je devais avoir un nom à consonance juive. Et cette impensée dont Mathilde parlait est très importante, c'est-à-dire qu'ensuite, moi j'ai vu mes camarades avec qui je militais à gauche se réclamer de l'antisionisme, alors même que c'était au nom de l'antisionisme que moi-même je me faisais soit insulter, soit pire. Et quand bien même, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que je condamnais à 100% les colonies en Cisjordanie, la politique du gouvernement israélien vis-à-vis des Palestiniens, il se trouvait que, justement, il y avait une forme de réactance qu'il faut surmonter pour pouvoir continuer à militer pour une solution à deux États, pour le droit de la Palestine à exister. Mais du coup, il y a des choses qui se confusionnent tellement au sein de la gauche parce que l'antisémitisme est utilisé par certains militants comme cache-texte de l'antisémitisme.
Je voulais réagir, mais j'ai oublié, donc...
Bon, eh ben, si ça vous revient l'idée, n'hésitez pas à intervenir après, peut-être à aborder d'autres questions. Et ce qui était intéressant, oui, par rapport à ça, je sais que vous avez fait, il y a des formations hein, qui existent. D'ailleurs, on avait fait, pour un rappel à nos auditeurs, auditrices, on avait fait des émissions avec Nona Meyer, là-dessus, Alain Policard, on avait abordé donc ces cas-là, qu'il y avait le RAAR, Réseau d'antisémitisme et tout raciste, avait déjà fait des formations hein, pour des gens de gauche qui avaient du mal à appréhender l'antisémitisme comme fait social, plutôt comme voilà, parce que le racisme en plus est vu comme une discrimination, et vu que l'antisémitisme n'est pas une discrimination, c'est une autre forme de racisme, du coup, pour certains gens à penser, c'est pas évident, on n'a pas les bons cadres bien pour la faire avancer. Donc ça, c'est intéressant qu'il y avait des voix comme ça. Je sais qu'à votre rencontre, il y avait des gens de syndicats, par exemple, de la CGT ou autre qui étaient venus, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit avec le public dans les rencontres, s'il y a eu des échanges, des propositions, des perspectives ou des pistes ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce premier événement là que vous avez organisé avec vos associations, vos camarades?
Juste si je peux me permettre, l'antisémitisme est une discrimination. On ne s'exprime pas nécessairement de la même manière que d'autres discriminations, c'est-à-dire que c'est vrai que, et notamment de discrimination raciste, parce que c'est vrai que typiquement, c'est pas nécessairement écrit sur nos têtes qu'on est juif, contrairement aux personnes noires, mais pour autant, il y a de la discrimination et pas juste dans les actes antisémites qui se revendiquent anti-système ou pas, mais aussi simplement même s'il y a peu d'études là-dessus, on observe quand même que il y a des discriminations à la prise d'élèves avec un nom juif en master, où je crois qu'il y a quelques études qui disent qu'il y a quand même des discriminations à l'embauche. Et au-delà de ça, en fait, le simple fait que à chaque fois que on va dans un lieu juif, on doit faire attention à notre sécurité parce que le nombre d'attaques sur des lieux juifs au cours des dernières dizaines d'années est assez impressionnant et conséquent, et que en fait, ça aussi, c'est de la discrimination. Et la vérité, c'est que c'est ni par plaisir, ni par envie qu'on va mettre de l'argent dans des éléments de sécurité, des caméras de surveillance, si je pense au musée juif, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a des portiques comme dans les aéroports, et c'est pas pour rien, parce que le musée juif de Bruxelles, de Belgique, a vécu un attentat il y a moins de 10 ans. Etc. Donc juste, je voulais intervenir parce que voilà, ça m'avait un peu heurté, c'est pas grave. Sinon, pour revenir sur la question de fond, je pense que déjà il y avait aussi plusieurs membres de parti, il y avait aussi Garrido de Raquel Garrido de Rachel Raquel Garrido de LFI et Jérôme Gage du PS. Des journalistes. Et sinon, sur les échanges, il y a eu beaucoup de personnes pour nous remercier après de cette intervention. Sur le moment, il y avait quelqu'un qui avait fait la remarque très juste qu'on parlait de l'impensé de nos biais, des biais antisémites à gauche, mais qu'il y avait aussi mais que la gauche s'engage aussi pas assez sur d'autres biais racistes nécessairement. Ce à quoi le RAR, je crois, avait répondu que c'était effectivement le cas, et particulièrement en évoquant Valls, qui avait eu des propos extrêmement violents envers les communautés roms. Il y a aussi un autre collectif, des membres d'un autre collectif juif qui n'a pas participé à l'organisation de la conférence, qui ont parlé de l'importance de... qui ont évoqué l'idée que ça serait bien aussi qu'on parle qu'on aligne la lutte contre l'antisémitisme avec les luttes décoloniales et qui pour elles vont ensemble, ce que personnellement je partage. Je pense que c'est pas le cas de absolument tous les membres du collectif. Vous avez d'autres idées de choses qui se sont échangées, parce que moi j'ai pas.
Moi je peux rebondir sur cette histoire d'impensé. Donc effectivement, c'est très difficile de déconstruire, surtout à partir de ce moment là actuellement où on est entré dans une escalade de réactance. Nous on essaye simplement de dire on peut faire de la gauche de gauche sans être antisémite. Et en face, il va y avoir certaines personnalités qui diront bon, jamais antisémite, moi pas du tout et tout ça, et qui vont avoir de plus en plus de mal à se déconstruire. Mais il n'y a pas uniquement de l'impensé dans les problématiques actuelles, il y a aussi des choses qui sont faites de façon délibérée. Et je veux insister sur le fait, par exemple, le 7 octobre, il y a eu un appel, notamment à LFI, sur la nécessité de complexifier le débat, de remettre l'attaque du Hamas dans un certain contexte, qui était absolument légitime. Je veux dire, si on est chef de parti de gauche, on a envie de produire du concept et d'aider ses militants à s'éduquer. Donc, Dieu merci, il faut complexifier la situation pour vraiment l'appréhender. Il se trouve que, ensuite, très rapidement, dans certains groupes de réflexion à LFI, on a complètement abandonné la moindre complexité. On a pu aller jusqu'à simplement dire que le crime originel était en 48, la création d'Israël, mais sans essayer elle-même de la recontextualiser. On a fait passer les habitants d'Israël pour tous des colons. Je tiens à préciser que la politique de Netanyahou est une politique coloniale et qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais dire que tout Israélien était une personne à abattre, c'est refuser de complexifier le débat, de se demander comment Israël a pu exister, de se demander la nécessité, si la nécessité d'un État juif se justifie, si il faut reprendre en compte tout le contexte, c'est-à-dire parler de la Shoah elle-même et de voir dans quel contexte Israël s'est créé. Et finalement, vouloir parler de la légitimité de l'existence d'Israël quand les Juifs, c'est aussi en soi oublier une composante du problème qui est nécessaire. Et refuser de le faire, en soi, ça dit quelque chose de sa vision politique.
En plus de mettre une cible dans le dos de l'ensemble des Israéliens et par association de tous les Juifs du monde, tant qu'à faire.
Et surtout, ça ne permet pas de proposer une solution pragmatique, d'urgence aujourd'hui, pour sauver les vies, enfin pour arrêter les massacres et sauver le maximum de vies, notamment les vies des personnes palestiniennes, que ce soit gazaouis ou aussi celles qui sont attaquées par les colons en Cisjordanie, et les vies des otages israéliens qui sont otages à Gaza, puisque la question ne sera pas résolue par un débat ontologique sur l'existence d'Israël, la création d'Israël il y a 70 ans, 75 ans, mais par une solution aujourd'hui à une question directe, comment faire arrêter que, faire que Israël arrête sa politique criminelle à Gaza, comment faire que Israël et les autorités palestiniennes trouvent un moyen de trouver une sortie à ça et qu'il y ait un cessez-le-feu, que les otages reviennent, que les vies civiles soient protégées et qu'il y ait le moins de morts possible. Et même actuellement, pragmatiquement aussi, faire venir de l'aide humanitaire, puisqu'il n'y a pas que les bombes qui tuent, mais aussi la faim et l'accès, le manque d'accès à la santé. Et toutes ces questions-là ne sont pas du tout résolues par des réflexions sur l'histoire d'il y a des dizaines d'années. À un moment donné, personnellement, je suis quelqu'un de particulièrement pragmatique et j'ai un côté, la vie d'abord et qui se passe et des solutions concrètes aujourd'hui d'abord.
Mais du coup, ce que fait Mélenchon est moins de la politique internationale que de la politique très nationale. Il a toujours théorisé depuis son Talmouf, pendant la campagne de 2017, le fait qu'il fallait absolument cliver. Et là, il a simplement ramassé le drapeau qui avait laissé tomber beaucoup d'influenceurs antisémites jusqu'à présent. Il se saisit d'un nouveau clivage qui est très simple. Sous couvert de lutte pour la paix, de lutte pour le droit décolonisé, non seulement il ne propose aucune solution valable, non seulement il n'est absolument pas constructif dans le débat, mais tout ce qu'il fait, et je déplore que ces turiféraires n'arrivent pas à le voir, c'est véritablement accuser les Juifs de trahison de la gauche en France, leur mettre une cible dans le dos, et il ne se bat pas réellement.
Ce que je voulais dire plus tôt, je l'avais retrouvé, et que je trouvais ça quand même comique, que... comique, triste. J'ai dans ma vie plus souvent eu d'assignation à répondre de la politique coloniale israélienne que de la politique coloniale française, alors même qu'on sait que la France a été et en fait, reste quand même encore aujourd'hui un des plus grands empires coloniaux de l'histoire récente. Ce qu'on peut notamment voir dans la politique, que ce soit en Outre-mer ou très actuellement la politique de Macron en Nouvelle-Calédonie et avec les révoltes kanak qui ont lieu, et même au-delà de ça, avec tout le néocolonialisme en Afrique de l'Ouest et par exemple les grandes entreprises, que ce soit celles de Bolloré ou Total, qui vont investir toutes ces différents pays d'Afrique pour gagner de l'argent et au détriment des populations, en utilisant les sols et le travail, et qui sert en plus après à financer l'extrême droite chez nous, pour ce qui est de Bolloré, puisque c'est le même empire, l'empire des ports en Afrique de l'Ouest, que la chaîne CNews qui fait monter l'extrême droite depuis plusieurs années.
Mais c'est pas pour dire qu'il faudrait parler d'autre chose que du problème de la Palestine. Évidemment qu'il faut en parler, et qu'il faut en parler longtemps et beaucoup, et qu'en ce moment il y a une énorme urgence vu ce qui se passe comme carnage dans la bande de Gaza. C'est simplement pour dire que si on regarde les choses, le discours politique, la priorisation qui est faite est politique elle-même. Et si on regarde les choses, on a moins demandé aux Russes après l'invasion en Ukraine, moins demandé aux Chinois quand le discours sur les Ouïghours a pu percoler dans la société française, moins demandé aux ressortissants ou aux personnes de ses origines en France de se justifier qu'on ne le fait encore et toujours pour les Juifs. Et c'est simplement pour dire que ce discours de juif égale potentiellement double allégeance, égale potentiellement anti-France, porte, et qu'il est dans les imaginaires, et qu'il faut absolument commencer à se poser la question et déconstruire ses propres biais.
Oui, si je peux me permettre, c'était en cela que je parlais, que ce n'était pas un racisme, de, comme c'est appelé, de discrimination maintenant, parce que dans le nouveau antiracisme, beaucoup d'associations antiracistes disaient que l'antisémitisme, ce n'était pas discrimination. Moi, je reprenais juste le discours qui mettait en avant, ce n'était pas mon opinion, mais que l'antisémitisme en soi est un peu carrefour de beaucoup de c'est l'étranger depuis les siècles, le bouc émissaire depuis des siècles et depuis les siècles. Bon, là, l'extrême droite a changé de bouc émissaire tactiquement depuis quelques années. Toutes les extrêmes droites, même d'ailleurs, ont changé de bouc émissaire en s'attaquant aux arabo-musulmans. Mais pendant longtemps, c'était le juif. Voilà, c'était juste pour remettre un peu au goût du jour. Voilà, c'est une vieille histoire très longue. Eh ben, on vous remercie pour cet entretien et on vous souhaite bonne continuation dans vos activités, parce que je pense que vous allez encore en avoir dans les temps à venir. Eh ben, on vous remercie.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
La tête dans l'étagère. Une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.